Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Marcel Gaucher, bonjour.
Bonjour.
Donc, dans ce troisième entretien, nous allons essayer d'explorer de façon plus précise le troisième tome donc, de l'avènement de la démocratie à l'épreuve des totalitarismes 1914-1974. Alors justement, pour éclairer, je voudrais qu'on regarde un tout petit peu donc, ce troisième tome qui fait plus de 650 pages et auquel je renvoie nos auditeurs, donc à l'épreuve des totalitarismes 1914-1974. Pourquoi le regarder ? Parce que, d'une certaine façon, il me semble que l'originalité de votre approche, c'est de montrer que le totalitarisme est une, non pas une négation de la démocratie, ce que les totalitarismes sont aussi, mais aussi une réponse aux impasses de la démocratie. Donc, ce qui nous renvoie à notre discussion de juste avant. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une impasse et quelque chose qui nie la démocratie semble donner une réponse. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce sur quoi Claude Lefort, que vous avez bien connu, a insisté, donc un lieu central de la démocratie qui est vide. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de dieu, et donc une angoisse métaphysique auquel répond les totalitarismes. Et deuxième chose, c'est qu'il y a quoi ? Des limites consubstantielles au régime démocratique, et donc les religions séculières, telles qu'on les a appelées, permettent de reprendre la place autrement de ces divinités perdues. Donc lieu central vide, et puis religion perdue, et nouvelle forme de religion, non pas dans l'au-delà, mais séculière. Donc comment est-ce que vous avez, vous, compris ou essayé de comprendre, au regard de ce que j'ai essayé de résumer un peu rapidement, et vous m'en excuserez, ce totalitarisme comme un effet de miroir, le négatif photographique, si on veut, de la démocratie ? Et est-ce que vous pensez que ce négatif-là peut rejouer, peut revenir ?
Alors, il y a deux parties
différentes
question compliquée.
Voilà, excusez-moi.
mais on va essayer de prendre les choses dans l'ordre.
Alors, commençons juste par l'originalité de votre approche, qui est de montrer le lien intrinsèque entre démocratie et totalitarisme, qui n'est pas juste un couple d'opposition, mais un couple de complémentarité, d'une certaine façon.
Les totalitarismes sont des régimes qui n'existent qu'en fonction de la difficulté d'être des démocraties qui se déclarent au moment de ce que j'ai appelé la crise du libéralisme, en reprenant une expression de l'époque d'ailleurs, à partir de la fin du XIXe siècle. Sans la démocratie constituée, il n'y a pas de totalitarisme. En 1850, l'idée de totalitarisme n'eut eu aucun sens en Europe. C'est des régimes qui correspondent à un moment historique bien particulier. Ce que j'ai essayé d'éclairer, c'est ce moment historique, sur les deux plans que vous indiquiez. Alors, par rapport à la crise de la démocratie, qu'est-ce que on peut, je crois, ramasser ? L'intention totalitaire, l'ambition d'apporter une réponse aux questions que la démocratie est incapable de résoudre. La démocratie, premièrement, il y a trois plans. C'est le régime qui sépare les hommes au lieu de les unir. Le grand idée libérale, c'était que par la délibération rationnelle, on arriverait à un consensus. Qu'est-ce qu'on voit ? Au contraire, la discordance des idées et l'opposition des intérêts que le conflit de classe porte à son paroxysme. Eh bien, le régime totalitaire, c'est le régime qui veut rétablir cette unité. La démocratie, c'est un régime, c'est ce que ses adversaires lui reprochent, qui ne représente pas véritablement le peuple, qui au contraire crée un hiatus, un abîme entre les dirigeants et les dirigés, qui sont littéralement sur une autre scène et ne dirigent en fait rien, représentent des pantins mus par les grands intérêts de la société et incapables de la conduire vers son intérêt commun. Eh bien, les régimes totalitaires sont ceux qui vont unir le peuple et le pouvoir, d'une manière différente, évidemment, selon leurs inspirations, mais toujours, c'est là leur deuxième grande ambition. Et troisième ambition, les démocraties sont le régime qui, sous prétexte de discussion rationnelle, installe en fait un scepticisme et une perte de sens au pouvoir. N'importe qui peut dire n'importe quoi, personne ne croit à rien. Eh bien, les régimes totalitaires, c'est leur troisième caractère, sont ceux qui restaurent l'unité de conviction qui doit guider toute la vie collective et qui rattache chaque domaine au foyer central où il devient intelligible. Voilà, je crois, la riposte totalitaire aux des questions que la démocratie est incapable de résoudre. Pourquoi religion séculière ? Ça, c'est le deuxième plan de l'analyse. Parce que je crois que ce qui a rendu possible, en outre, les régimes totalitaires tels que nous les avons connus, et qui leur a permis de matérialiser ces ambitions que j'indiquais à l'instant, c'est un moment extrêmement particulier du processus que nous évoquions tout à l'heure de sortie de la religion. Un moment extrêmement particulier qui a duré quelques décennies, où à la fois l'ancienne forme religieuse des sociétés humaines a perdu tout sens, c'est-à-dire un pouvoir monarchique, des liens hiérarchiques entre les êtres, des communautés organiques, tout ça est balayé par l'égalité, la représentation, l'égalité des personnes, la déliaison individuelle. Et au moment du début du XXe siècle, on peut considérer que cette ancienne forme religieuse qui avait survécu à travers tout le XIXe siècle, sous mille aspects, cette ancienne forme religieuse n'a plus aucune consistance dans la vie des collectivités. Mais, et c'est là l'autre face, elle demeure, inconsciemment souvent, la seule forme dans laquelle les acteurs de ce monde moderne sont capables de penser leur univers social. Et ils n'ont d'autre but que de restaurer cette ancienne forme. Sauf que comme elle est morte, dans les faits, il faut lui réinventer d'autres moyens, d'autres canaux, d'autres instruments. Et c'est cela que vont faire les totalitarismes. Les totalitarismes, dans leur diversité d'aspects, ont tous pour ambition commune de rétablir l'ancienne forme religieuse par des moyens modernes. Ils ne remettent pas un roi sur le trône, mais ils installent un dirigeant suprême qui est en même temps un savant, un conducteur de peuple. Dans cette position de suréminence, ils ne vont pas restaurer les anciennes hiérarchies ni les anciennes communautés, mais ils créent le parti qui devient une forme d'homogénéisation sociale sans précédent. Ils ne vont pas remettre des religions au poste de commandement, mais ils vont construire des doctrines pseudo-scientifiques dans un marxisme dénaturé ou un étatisme dans le cadre du fascisme italien ou une statolatrie, dira l'Église catholique pour le condamner, ou bien encore un racialisme dans le cas allemand, qui se donne pour les doctrines les plus finales et compréhensives de la condition humaine. C'est cela qui fait qu'on peut parler de religion séculière, qu'il faut définir en termes exacts, me semble-t-il, des anti-religions religieuses. C'est-à-dire des discours qui ont l'ambition de rompre avec l'ancien monde religieux, mais qui en fait le réactive d'une manière plus ou moins consciente ou inconsciente. Les totalitarismes sont religieux malgré eux. Ils ne le sont pas délibérément. Donc quand on disait « le marxisme est une religion », on se trompait. Non, il était une anti-religion, mais une anti-religion religieuse. Là est la formule plus subtile qui permet de rendre compte de l'extraordinaire ambiguïté et des contradictions de ces doctrines.
Oui, donc ça veut dire qu'il y a une forme de dépassement ou de réponse donnée par les régimes totalitaires à une démocratie qui opère, selon ce que vous dites, trois séparations. La séparation de l'individu et du groupe, la séparation du peuple et du gouvernement, et la séparation de l'action et du sens. Deuxième partie de ma question, excusez-moi de passer, mais c'est pour maintenir notre unité à la fois de temps et de réflexion. Nous sommes aujourd'hui, au regard de ce que vous dites juste avant, nous sommes aujourd'hui dans cette même souffrance, cette même difficulté, cette même angoisse des trois divisions.
Nous n'y sommes pas du tout de la même manière. Voilà, tout est là, si vous voulez. En effet, nous avons la démocratie a trouvé le moyen de maintenir ces séparations tout en leur apportant une réponse. Nous ne sommes, en effet, c'est ce qui est le plus frappant sur le plan de l'action et du sens, nous ne sommes d'accord sur rien, si je puis dire. Auguste Comte déplorait en son temps l'anarchie des esprits. Que dirait-il s'il revenait parmi nous, où la bigarrure des opinions et des points de vue n'a fait que se démultiplier. Mais en même temps, nous sommes d'accord sur l'essentiel. c'est-à-dire sur la méthode qui permet d'arriver à un avis ou une opinion juste. Nous avons en effet des individus qui partent dans tous les sens et dont le lien avec le groupe est des plus improbables à saisir, mais nous sommes devant des individus qui sont fabriqués par la collectivité, qui bénéficient d'une protection de la collectivité sur tous les plans, sans aucun précédent dans l'histoire. Donc, certes, nous sommes déliés, mais enlevez la sécurité sociale et vous verrez combien nous sommes liés, sans le savoir, et en pouvant l'ignorer, ce qui est un luxe extraordinaire au regard des formes anciennes où la sécurité se payait cash sous forme de contraintes très fortes. Nous, nous avons la sécurité et l'absence d'obligation, ou à peu près. C'est extraordinaire. Et même chose sur le plan des liens entre les gouvernants et les gouvernés. Certes, la distance est grande, l'incompréhension souvent très profonde, mais bel et bien, nous sommes dans des démocraties qui ont trouvé le moyen de mettre, si je puis dire, les gouvernants à la portée des gouvernés, par toutes sortes de canaux qui font que nous avons l'impression qu'ils ne font pas leur travail en vivant sur une autre planète au regard des préoccupations qui sont les nôtres, mais que nous avons néanmoins le moyen de nous faire entendre d'eux et que, somme toute, nous sommes dans un lien tel d'ailleurs que la plupart des citoyens déclarent « Est-ce que vous feriez mieux, quand on leur pose la question, est-ce que vous feriez mieux à leur place ?» répondent courageusement et honnêtement « Non ». Je ferai pareil. On voit bien là qu'il y a quelque chose qui a remis du commun entre les gouvernants et les gouvernés au regard de ce qu'était l'ancienne division telle qu'on pouvait la voir en 1900, exacerbée et suscitant cet anti-parlementarisme virulent au regard duquel la dépolitisation contemporaine, qui est une réalité, est un jeu d'enfant.
Dernière question, et puis on s'en arrêtera là, mais le petit goût d'insatisfaction qui naît chez moi au regard de ce que vous me dites est le suivant, c'est qu'il semble donc que le passé tel que vous l'examinez dans ces trois tomes et en entendant le quatrième, le passé donc éclaire l'aujourd'hui, mais ne semble éclairer en rien l'avenir. Et que donc vous ne pouvez pas, ou la nouvelle formule, ou même les crises, ou même les dangers, ne sont pas, dites-vous, de même nature, reproductibles, et donc il n'y a pas de danger totalitaire que vous entrevoyez, eu égard à l'analyse que vous faites dans ce troisième tome des totalitarismes, réponse à la démocratie et à la première crise de celle-ci.
Eh oui, je ne suis ni prophète, ni devin. Mais je trouve néanmoins votre proposition injuste. Il me semble que l'analyse que je propose, même si elle se garde justement de toute ambition de
prophétisme,
de divination de l'avenir, permet de comprendre ce que sont nos tâches et ce vers quoi nous devons aller. Nous parlions tout à l'heure du principe général d'équilibre de l'individuel et du collectif. Je dirais de la même manière, c'est un point dont nous n'avons pas parlé, mais qui renvoie à une analyse davantage technique, nous devons aller vers ce que nous pouvons reconnaître comme le régime mixte des modernes, c'est-à-dire une articulation équilibrée des composantes fondamentales des sociétés modernes. Donc nous avons, je pense, une idée assez claire de ce que pourrait être aujourd'hui une démocratie supérieure dans son principe à celle à l'intérieur de laquelle nous vivons. Et je crois qu'elle est de l'ordre du possible. Mais bien entendu, nous ne sommes pas dépourvus, autrement dit, de moyens de nous projeter dans l'avenir. Mais ce que nous ne pouvons en aucun cas dire, et ça, ce n'est pas mon infirmité personnelle, mais que je serais tout prêt à reconnaître par ailleurs, c'est un autre problème. Je pense que de plus malin que moi se mettait dans la liste, il n'obtiendrait pas de meilleurs résultats. Parce qu'il y a là quelque chose qui tient à la liberté humaine et à la contingence de l'histoire. Nous pouvons discerner l'avenir vers lequel nous pourrions tendre et qui a des chances de se réaliser, mais nous ne savons pas par quel chemin nous y irons. D'une part, parce qu'il y a la fortune qui commande une partie de notre destin, et d'autre part, parce qu'il y a la liberté des acteurs. Imaginons que nos sociétés se réveillent de leur torpeur dépressivo-euphorique que nous évoquions tout à l'heure et se décident à se changer. En quelques décennies, sans casse, sans drame, nous pourrions passer dans des régimes beaucoup plus satisfaisant du point de vue de leurs principes de fonctionnement. Rien ne permet de prédire une telle ressaisie collective. Rien ne permet d'imaginer les circonstances dans lesquelles ça se passerait. Mais on peut imaginer, par exemple, que des catastrophes écologiques fonctionnent comme un avertissement tel qu'une autre direction s'impose. C'est de l'ordre du concevable. Il se peut, hélas, qu'il faille, beaucoup de gens pensent spontanément comme ça, peut-être ont-ils raison, il faut malheureusement que les crises aillent au bout d'elles-mêmes, révèlent tout leur potentiel de catastrophe pour que le réveil se produise et que la décision collective, en quelque sorte, qui n'est prise nulle part mais qui fonctionne, de sortir de cette impasse, devienne efficace. Après tout, c'est ce qui s'est passé avec la crise du libéralisme. La crise du libéralisme, elle était claire pour les bons esprits. En 1910, beaucoup de gens ont dit des choses prodigieuses. Ils les ont redites en 1918 au sortir du conflit mondial. Ça n'a servi à rien. Et il a fallu aller au bout de l'horreur totalitaire pour qu'en 1945, une espèce de volonté de réforme et de sortir de ces ornières devienne absolument majoritaire et s'impose. Il se peut que nous rejouions un scénario analogue. Mon vœu secret en écrivant est que ce que j'écrive servent à quelque chose, naturellement, et que donc l'humanité, forte de son expérience ayant tiré quelques leçons du passé, essaye d'anticiper sur les catastrophes pour les éviter et trouver leurs solutions avant qu'elles ne deviennent dramatiques. Mais là, personne ne peut là-dessus se prononcer.
Les limites de votre analyse, et on terminera là-dessus, les limites de votre analyse telles que je les indiquais préalablement étaient une forme d'hommage. Pour deux choses. Un, effectivement, tout théoricien, quel qu'il soit, se doit, et tel est votre cas, de reconnaître l'inattendu, l'inédit de l'événement. Et à la limite, c'est ça qui est un événement, c'est qu'il n'a pas été prévu. Et la deuxième chose qui fait l'admiration de tous vos lecteurs dont je suis, c'est que vous mettez sur la table, pour tous ceux qui réfléchissent à ces questions-là, les outils conceptuels, les problématiques, les éléments, tout en renvoyant à plus tard, ou tout en imaginant que d'une manière ou d'une autre, la formule, la formulation démocratique prendra tel ou tel aspect, mais en tenant compte de la problématique telle que vous la mettez sur la table. Donc je renvoie tous nos auditeurs en vous remerciant d'être venus jusqu'à nous, donc aux trois premiers tomes donc, de l'avènement de la démocratie, dont le dernier, à l'épreuve des totalitarismes 1914-1974, et en attendant le dernier, donc, qui sera le couronnement, ce qui se passe depuis 1974, et qui nous permettra d'entrer encore plus dans une nouvelle problématique, une nouvelle démocratie revue et corrigée par les impasses, les crises, les limites, les problèmes tels que nous pouvons les connaître. Marcel Gauchet, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous.
Merci à vous.